Bonjour à tous. Et peut-être que vous faites, justement, comme disait Samuel, peut-être vous êtes simplement de passage dans cette église pour l'été. Ou peut-être vous êtes là de membre depuis des années. En tout cas, si vous êtes ici ce matin, c'est probablement que vous attendez, vous voulez vivre quelque chose de la foi chrétienne. Sinon, vous ne seriez pas là. Je me suis renseigné sur les raisons qui attirent à la foi chrétienne. Parmi les principales raisons qui ressortent, voilà quelques-unes. Quelqu'un qui aurait vécu une délivrance dans une situation de crise, après une prière. Peut-être une deuxième raison pourrait être l'expérience d'une paix inattendue. Là encore, un constat plus intérieur, mais tout aussi puissant, le lourd poids de la culpabilité balayé, ou certaines angoisses personnelles apaisées par Dieu. Et troisième raison, souvent citée, une réponse crédible qui donne du sens, crédible à la question de l'existence. Certains découvrent en effet dans la Bible toute la richesse du plan de Dieu, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et quand je me remémore les baptêmes qui ont eu lieu ici cette année, c'est un petit peu toutes ces combinaisons de raisons qu'on peut retrouver dans les témoignages, des délivrances, une paix inattendue suite à une prière, mais aussi du sens à toute la vie maintenant qu'ils ont découvert la vie éternelle en Jésus-Christ. Et justement, dans le texte de ce matin, toutes ces raisons sont un peu entremêlées. En effet, nous verrons comment Dieu promet une délivrance extraordinaire. Mais il promet une délivrance extraordinaire dans une situation de crise terrible. Et comment de cette délivrance découle la paix, le sens pour tous les témoins qui s'en saisiront par la foi. Je vous fais la lecture, on peut prendre 2 Rois, la continuité de la semaine dernière, donc 2 Rois au chapitre 6, à partir du verset 24, on peut ouvrir nos Bibles. Et nous continuerons dans le chapitre 7. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je, avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens ? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël !» Il a pris toute sa solde contre nous, les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, il dit à ses serviteurs, « Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 sicle, et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 sicle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Voyons de quelle détresse, quelle est la détresse qui est si insoutenable pour le peuple. Donc là, dans ce contexte compliqué, on voit que tout le peuple est dans la ville de Samarie. Il est encerclé, il se trouve encerclé par une grande armée, celle du roi de Syrie, celle de Ben-Hadad. Ils sont assiégés, mais ce roi de Syrie, ce n'est pas anodin, hein. Il faut noter qu'il avait déjà tenté une attaque sur la ville de Samarie quelques chapitres auparavant, hein, par le passé, en 1 roi chapitre 20. Et il avait été relâché bêtement par Akab à l'époque. Le peuple est donc encerclé, l'extérieur contraint de rester à l'intérieur, et cet encerclement, ce siège, fait les conséquences d'une famine. Et on voit la famine, elle est décrite de manière avec des prix complètement irrationnels. Le cours de la bourse a complètement flambé, il n'y a rien qui va, et de sorte qu'on achète même ce qui est impur à des prix d'or. La tête d'âne est même valorisée, si vous voulez. Mais le constat, il est pire qu'une simple famine lorsqu'on regarde la déchéance morale dans laquelle on tombe, dans laquelle le peuple est en train de tomber. Notamment avec la tension entre les personnes du même peuple, avec ces 2 femmes qui se battent pour manger leurs fils respectifs. Et on peut voir que ce n'est pas juste qu'elles ont faim, mais c'est aussi les conséquences d'une désobéissance du peuple. On lit ça en Deutéronome chapitre 28, quand Moïse avertissait que si le peuple ne servait pas l'Éternel, si le peuple se détournait de l'Éternel au milieu de l'abondance, il serait non seulement assiégé, mais livré entre les mains de ses ennemis, puis peu à peu, il serait dans cette malédiction d'aller vers du cannibalisme. Je vous lis verset Deutéronome 28, verset 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Donc on voit, c'est catastrophique ici. On est à l'extérieur du camp, le siège, mais à l'intérieur, entre le peuple, ils se dévorent mutuellement. C'est un peu les Hunger Games, si vous connaissez le roman ou le film. Mais on peut se demander, que fait le roi dans cette situation ? On le voit justement dans ce récit. Une des deux femmes vient à se plaindre de la situation auprès du roi. Le roi n'est pas véritablement sensible à sa requête. Il ne cache d'ailleurs pas qu'il est incapable de sauver qui que ce soit. Il voit juste l'état matériel dans lequel la ville se trouve, et il ne peut pas la sauver. Il base ses forces sur ce que l'air et le pressoir peuvent lui donner. Il n'a rien sous la main, mais il ne regarde pas non plus à Dieu ici. Et en fait, on voit que le roi va plus loin. Il ne dit pas juste qu'il est incapable, il va simuler un air de deuil, au verset 30. Il implore faussement Dieu, au verset 31. Comment on peut savoir que c'est faux ? Mais parce que juste après, il cherche à se débarrasser de l'homme de Dieu, de son propre prophète, d'Élisée. Donc là, on est dans une situation externe catastrophique, interne d'autant plus catastrophique, puisque si le roi, le propre roi d'Israël, vient à se détourner même de son prophète, le seul qui peut le secourir dans ce temps de détresse, c'est une situation qui mène littéralement à la mort de toute cette ville, à la mort du peuple. Alors, peut-on espérer une délivrance dans une telle situation ? C'est un peu la question qu'on peut se poser ce matin, quand tout semble catastrophique autour de nous. Peut-être même quand on se tourne vers les siens, c'est aussi problématique. Peut-on espérer une délivrance ? Relisons les premiers versets du chapitre 7. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » C'est quand même incroyable. Qui pourrait croire dans un temps de famine comme celui-ci, dans une ville assiégée, aucune solution externe n'est envisageable, qu'en un jour, tout pourrait être restauré, tout pourrait être rétabli, que même la souffrance liée à la famine serait comme un lointain souvenir. Il faudrait quand même un cumul de probabilités, un cumul d'événements, je veux dire, improbables, qui, d'un point de vue mathématique, c'est complètement impossible, ou quasi en tout cas. Pourtant, il y a quelques indices dans notre texte qui nous aident à croire, qui nous aident à peut-être envisager une délivrance. Notamment lorsqu'on regarde qui est celui qui adresse la parole prophétique ici. C'est Élisée. Ce même Élisée avait déjà été utilisé par Dieu pour des miracles, pour des délivrances. La plus récente se trouve dans le début chapitre 6, la délivrance du peuple face à l'armée syrienne, justement. Un autre élément qui nous aide à croire, c'est le souvenir de la puissance de l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il a annoncé des choses par le passé qui se sont déjà accomplies. Ce souvenir-là peut encourager la foi du peuple ici. Et le peuple n'était pas sans savoir ces délivrances opérées par le passé dans l'histoire d'Israël. On peut penser à la délivrance du peuple face à l'armée égyptienne à travers la mer Rouge sous Moïse. Je ne prends qu'un exemple ici, mais c'est pour dire le roi d'Israël et son officier et le peuple, tout cela était censé cultiver le souvenir des délivrances passées, ainsi que fonctionnait le peuple de Dieu. Mais là où le cours des choses est d'autant plus surprenant dans notre récit, c'est que ce n'est ni le roi, ni son officier, et encore moins le peuple ici, qui vont se soucier de la délivrance. Le roi se sent incapable, l'officier suit son maître à la lettre, l'incrédulité de son maître. Et donc ce n'est ni le roi ni son officier qui vont opérer la délivrance, mais quatre lépreux qui apparaissent et qui vont réfléchir puis agir. Et quatre lépreux, c'est intéressant de voir, c'est des personnes qui sont ni à l'extérieur de la ville, puisqu'ils ne sont pas ennemis de la ville de Samarie, du côté plus ou moins de l'Éternel. Ils font partie du peuple, mais ils ne sont pas non plus dans le peuple. Ils sont en marge du peuple, ils ne sont pas vraiment à l'intérieur, pas intégrés, puisqu'ils sont mis à l'écart de par leur lèpre. Donc des personnes pas intégrées à la vie sociale normale de la ville de Samarie. Et peut-être leurs intentions du début, elle n'est pas très limpide, hein, je ne sais pas, mais on a du mal à savoir si c'est une vraie crainte de Dieu ou un calcul désespéré. Mais je crois quand même qu'il y a un petit pas de foi ici dans leur réflexion. Je compare un peu ça au pari de Pascal, hein, qui était ce philosophe et mathématicien, qui met en avant la folie de ne pas parier sur l'existence de Dieu. Mais Pascal explique que ça ne coûte rien de partir du postulat que Dieu existe, mais à l'inverse, partir du postulat qu'il n'existe pas s'avère dangereux. On connaît la fin. Si la seule vie à espérer, c'est cette terre, on connaît la fin. Donc j'admire les deux démarches. Dans le cas des lépreux et de Blaise Pascal, nous observons un cheminement qui est réfléchi, qui est louable. Et d'ailleurs, il ne manque pas de paramètres incertains pourtant tout autour. C'est un cheminement réfléchi qui est audacieux. On retrouve ce genre de réflexion préalable aussi chez l'évangéliste Luc, hein, dans le Nouveau Testament. Il a posé par écrit le récit des événements de la vie de Jésus de manière rigoureuse, de manière systématique, avant de les compiler, puis de les exposer à Théophile, puis pour qu'on en ait l'ouvrage aujourd'hui. Pour en revenir à Blaise Pascal et à nos quatre lépreux, je trouve aussi merveilleux que dans les deux démarches, il y a un résultat espéré. Ce résultat, c'est la vie. Et ce postulat lié, hein, postulat de départ simple, mais profond, que la vie vaut mieux que la mort. Ça me fait repenser à mes premiers pas de foi. Je savais peu de choses sur Dieu. J'avais pas beaucoup d'expérience dans la vie. J'avais, je crois, 22 ans, par là. Et j'avais une certitude simple, j'avais conscience que la vie est une bonne chose, j'avais aussi conscience que la mort en est une mauvaise. C'est peut-être simple, mais c'était ma conscience, le peu que je savais. Mais j'étais très loin d'imaginer comment Dieu allait s'y prendre pour me délivrer du poids de ma culpabilité, de mon péché. Loin de comprendre tout son amour manifesté en Christ, souffrant humblement à ma place sur cette croix. Mais de ces quelques postulats très simples, j'avançais, j'osais peut-être prier Dieu de manière très bancale. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici dans la démarche de nos quatre lépreux. C'est sur leurs quelques petites connaissances que les lépreux se sont basés pour avancer avec foi, agir. Une réflexion simple et profonde sur la vie les a motivés à se diriger dans le sens d'arrêter de stocker frénétiquement tout ce qu'ils trouvaient dans les tentes, les trésors du camp des Syriens, pour partir annoncer la bonne nouvelle de délivrance. Hein. On voit ça, leur premier pas de foi, il se traduit ainsi, hein, il se transforme en une foi vivante au verset 9. Je relis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'au matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils prennent conscience personnellement du bien et du mal, ainsi que de leur mission désormais, leur rôle dans tout ça. C'est des personnes en marge de la vie sociale de leur ville qui réfléchissent désormais à être au service de leur ville. Ce ne sont pas les plus intégrés, de toute évidence, mais on voit pourtant une foi vivante, une foi déjà à l'œuvre, qui est louable ici. Ils réalisent que si c'est vraiment Dieu qui a opéré cette grande délivrance, que le camp soit vide, que les ennemis soient partis, si c'est vraiment ce Dieu qui a opéré cette délivrance, dont eux sont les premiers témoins, alors c'est qu'il est puissant. Et il peut aussi utiliser leur faiblesse, leur situation, pour annoncer sa bonne nouvelle. Il ne va pas être dépassé. Dieu n'est pas dépassé par leur situation pour les utiliser. J'admire les lépreux parce que ici, nos quatre lépreux n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ne se répète pas ce message qui se dit aujourd'hui, il faut que tu te fasses plus confiance à toi, pour être plus fort. Non, ils savent qu'il n'y a rien en eux, que la force n'est pas en eux, il n'y a que la maladie en eux, ils vivent ça, ils savent qu'ils sont morts de toute façon. Ils savent que ça ne vient pas d'eux. Ils n'ont rien à puiser en eux-mêmes, ils savent que leur force vient de l'auteur de la bonne nouvelle, de la délivrance, c'est-à-dire celui qui a fait partir les Syriens de manière spectaculaire, de manière miraculeuse, en faisant entendre un bruit. N'est-ce pas Dieu qui a opéré la victoire, la délivrance, qui a épouvanté les troupes ennemies, de sorte que celle-ci s'enfuit et laisse le camp vide derrière elle ? Si tu penses ce matin que ta foi elle est petite, certainement qu'elle l'est, et la mienne aussi, et je pense que c'est un humble constat face à ce qu'on voit de Dieu, ce qu'on apprend sur Dieu, plus on voit combien Dieu est grand, plus on voit combien on est petit, combien notre foi manque si souvent à être vivante. Mais c'est une chose de faire ce constat qu'elle est petite, notre foi, mais penses-tu que ta faible foi va réduire la puissance de Dieu ? Si c'est le cas, c'est un problème. Ça serait réduire Dieu à tes limites. Ça serait faire un Dieu à ton image. Ah, je suis faible en foi, donc Dieu est faible. Quand ta foi est faible, en fait, Dieu n'est pas affaibli pour autant. Quand ta foi est forte, il n'est pas plus fort. Quand ta foi est faible, il n'est pas plus faible. Dieu ne change pas. Le Tout-Puissant est tout-puissant. Dieu est capable d'agir dans ta vie aujourd'hui, car il est puissant. Il s'intéresse à ton cœur, il s'intéresse à notre cœur, il veut pardonner nos péchés. Mais pas n'importe comment, il y a une manière de le faire. Il opère grâce à la délivrance qu'il a accomplie en son Fils, en Jésus-Christ, que nous avons chanté ce matin. C'est par sa mort que nous avons la rémission de nos péchés. C'est comme ça que fonctionne l'Évangile. Dieu prend plaisir à pardonner le pécheur qui se repent, qui trouve son secours en Christ, à la croix. L'humble serviteur, le Tout-Puissant, vient marcher, vient habiter parmi nous. Et voilà comment il restaure notre relation avec lui, c'est par ce sacrifice de Jésus donné pour nous. À l'inverse, l'incrédulité nous recentre constamment sur nous. Nous voyons nos forces, mais du coup nous voyons aussi nos faiblesses. En nous faisant oublier la puissance de Dieu, son plan glorieux. Qui pouvait sinon, le Dieu créateur de toutes choses, délivrer son peuple en un instant du piège de son ennemi ? C'est un peu la question à laquelle nous avons la réponse. Mais voyons la manière encore, c'est intéressant de voir que c'est clairement en ouvrant les portes du ciel que Dieu épouvante ses ennemis. Il les tourne en ridicule. Mais c'est exactement cette annonce de la délivrance promise d'Élisée que l'officier va balayer de la main. Il va se moquer de cette annonce, il ne va pas y croire. Il tourne en dérision la manière dont Dieu veut agir. Mais c'est exactement par cette vision céleste de l'armée que les Syriens sont épouvantés et ridiculisés dans leur force. Ils fuient pour garder la vie. Mais c'est cette manière que Dieu utilise pour rétablir l'unité dans son peuple, pour rétablir l'unité entre lui et nous. Là, il nous réconcilie de manière définitive par Jésus-Christ à la croix. D'autres versions traduisent les fenêtres dans le ciel par ouverture dans le ciel ou encore écluse du ciel. Oui, c'est vrai, les cieux nous étaient fermés à cause de notre péché, mais Jésus, bien que l'égal du Père en essence, qu'il vient du ciel, va descendre sur la terre, réconciliant l'humanité brisée par le péché avec le Dieu créateur, le Dieu trois fois saint. Donc il a opéré en ce que Jésus s'est chargé lui-même de toutes nos fautes à la croix, nous offrant ainsi le pardon pour nos péchés, brisant le mur infranchissable entre Dieu et nous. Donc les écluses du ciel fermées, accès refusé. Mais Jésus se présente venu du ciel, se présente comme étant la porte qui mène au royaume, à la bergerie, à toutes les choses célestes finalement. Donc cette porte pour accéder au royaume, cette porte pour accéder au peuple de Dieu, à la communion, se présente comme le chemin vers le Père. Donc là encore, on a, la foi chrétienne ne se résume pas à « je me sens meilleur que les autres », mais « je me sais misérable devant la sainteté de Dieu ». Mais j'ai un rédempteur, j'ai un sauveur, Jésus-Christ, mort pour mes péchés, mon avocat devant le Père. Pour finir, et face à cette bonne nouvelle, il reste une dernière étape à franchir. Dans notre texte, on le voit, hein. Il met en comparaison deux réactions opposées. D'un côté, l'incrédulité persistante, hein, avec le roi et son officier. De l'autre, la foi. Alors que faire si vous constatez, si nous constatons parfois dans même notre vie chrétienne, hein, un endurcissement face à la bonne nouvelle de Dieu ? Que faire lorsque je constate que mon cœur est endurci ? Peut-être que mon cœur n'a jamais répondu à cette bonne nouvelle, ne s'en est pas saisi. Mauvaise réaction donc, l'entêtement. Diriger notre mal-être, c'est vrai, on a beaucoup de complexes, de mal-être, mais diriger tout cela en prenant Dieu comme coupable ne résout pas le problème. C'est un peu comme le roi et son officier, ils tentent de faire d'Élysée leur bouc émissaire. C'est lui le problème. Il faut le tuer. Mais on voit aussi leur fin. On ne peut pas atteindre à la vie de Dieu. Dieu est plus fort. Si on fait un combat et un bras de fer contre Dieu, on n'aura jamais gain. Elle n'est pas glorieuse, leur fin. Elle est mortelle. Pour l'officier qui voit, il ne peut goûter à la restauration. Il la voit pourtant, quelle frustration. Il voit le festin, la consolation que le peuple, à laquelle le peuple peut aspirer maintenant, puisque le camp des Syriens est vide, mais il ne fait que la voir. Il n'en goûtera pas une miette. La bonne réaction à l'inverse, celle que, dont je vous encourage ce matin, ce pas de foi encore, ou un pas de foi renouvelé, en amenant devant Dieu notre détresse, notre péché, devant lui qui entend, lui qui n'est pas insensible, lui qui se soucie, qui nous connaît, qui se soucie de nous, n'est pas dépassé par le poids de nos problèmes. Je me rappelle souvent que l'amour n'est pas une fonction de Dieu. Ce n'est pas non plus une option de Dieu, l'amour. Ce n'est pas un tiroir qu'on ouvre en Dieu. Il y a d'autres choses, non. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Dieu est amour, comme nous dit la parole. C'est ce qu'il est, en fait, au plus profond de ses entrailles, au plus profond de lui, qui ne peut changer. Dieu est amour. C'est rassurant, d'ailleurs. Dieu ne change pas selon mon humeur, en fait. Il ne change pas son plan de m'aimer et de me sauver. S'il le faisait, je serais mal. Il fait toute chose en raison de son nom, de son caractère, et non en raison de mon humeur. Toute chose selon, encore une fois, son nom et son caractère, et non selon mes performances. Parce qu'il est. Il est amour. Il est tout-puissant. On parle du caractère de Dieu. Alors, multiples facettes au caractère de Dieu, la toute-puissance, la fidélité, l'amour. Qu'est-ce qui vous manque de regarder, à quel caractère de Dieu vous êtes le moins enclin à croire ce matin ? Peut-être est-ce l'amour ? Peut-être avez-vous souffert de choses qui, dans vos têtes, influent sur votre conception de Dieu ? Demandez-lui de vous aider à croire en sa bonté, à son amour pour vous. Peut-être vous jugez qu'il y a des choses qui lui échappent, qu'il n'est pas, il ne serait pas tout-puissant. Et encore, je demande au Seigneur, quand ma foi vacille dans ce sens, qu'il me convainc qu'il est puissant. Tout-puissant. Aujourd'hui même, Jésus t'offre sa solution, nous offre à chacun cette réconciliation, la seule efficace devant notre détresse, devant notre péché, n'est pas dépassée et nous offre un pardon complet en Jésus-Christ. Alors qu'avons-nous à craindre de faire un pas vers lui ce matin ? Qu'avons-nous à craindre de renouveler un engagement cet été, durant le temps du bilan, peut-être ? Qu'avons-nous à craindre de lui parler régulièrement, si Dieu est bon, s'il attend juste nos mots ? Qu'avons-nous à craindre d'annoncer aussi cette bonne nouvelle autour de nous ? Les lépreux sont des exemples, ici, pour nous. Alors, mon souhait, c'est que nous ne persévérions pas dans cette incrédulité, comme le roi et son officier, on voit leur fin tragique. Et jusqu'à la fin d'ailleurs, la fin de notre passage, on voit qu'ils mettent tout un tas de stratagèmes, de scénarios en place pour tester encore si la délivrance a bien eu lieu. Mais on voit qu'en fait ce test, c'est un long débat interminable chez eux. Des fois, on débat avec Dieu, on veut des réponses à des questions sur Dieu, sous prétexte qu'on ne veut pas croire à sa délivrance en Christ. C'est un peu comparable ici. Ils mettent en place des choses, et en fait, ça les mène à leur perte, puisque c'était de toute évidence maintenant qu'il fallait plier le genou. C'est de toute évidence, dans l'urgence, qu'il fallait implorer Dieu, le Dieu de leur père, le Dieu dont ils cultivaient le souvenir. Où ils étaient censés, en tout cas. Voilà, devant cette grande délivrance, n'ajoutons pas à notre détresse l'incrédulité, hein, mais par la foi, en ce que nous savons déjà sur Dieu, peut-être le peu de choses, osons implorer Dieu qui nous a délivrés d'une manière définitive, par son amour, en envoyant Jésus-Christ, son précieux Fils, pour nos péchés. Je trouve que cette foi des lépreux est encore... Pour moi, c'était vraiment un bluffant d'encouragement dans la foi. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta délivrance en Christ. Merci pour tout ce que tu nous as donné de manière inattendue, d'une manière dont on n'aurait pas pu imaginer. Nous n'aurions pas pu imaginer un rédempteur, un libérateur souffrant, mais victorieux, glorieux. Nous n'aurions pas pu imaginer que 3 jours plus tard, il ressusciterait d'entre les morts et que ses premiers témoins seraient les plus exclus d'une société à l'époque, ces femmes, Seigneur. Et pourtant, c'est ces femmes que tu as ouvert les yeux en première pour voir l'évidence, la glorieuse délivrance en Jésus-Christ. Merci parce que tu peux nous utiliser dans nos faibles forces pour annoncer à d'autres encore... cette délivrance, ce pardon des péchés en Jésus-Christ. Merci pour toute ton Église ici, que tu puisses ne pas nous freiner, ne pas nous laisser dans nos freins liés à nos faiblesses, mais vraiment que nous soyons confiants, que tu peux nous utiliser malgré nos faiblesses pour révéler justement d'autant plus ta force, ta puissance, et que tout vient de toi. Alors, Seigneur, à toi la gloire pour nos faiblesses, Seigneur. Tu peux les utiliser. Nous le voyons dans ce récit et nous te demandons, Seigneur, encore que si nos yeux sont ouverts, qu'ils demeurent zélés à annoncer cette bonne nouvelle, à en vivre chaque jour, Seigneur, devant nos détresses, nos défis. Nous avons Christ victorieux et c'est ce que nous voulons encore chanter ce matin. Je te prie tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.